chez nous, en Occident, j'entends, la distinction du politique et du sacré s'explique donc par le fait que Dieu est tellement haut qu'il ne peut pas s'installer ici-bas. Et aussi par le fait que l'ordre humain est installé dès le début dans sa propre sphère. Et ça, on le trouve évidemment dans le Nouveau Testament, que quand le fameux « rendre à César ce qui est à César » qui a été interprété comme ça, on pourrait évidemment discuter l'interprétation, je pense. Et toute cette histoire qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'histoire du Christ, sa comparution devant Pilate, sa condamnation à mort, etc., montre que la royauté spirituelle est dans son ordre. Mon royaume n'est pas de ce monde. Moi, je ne m'occupe pas des affaires terrestres. La politique temporelle suit son destin singulier. Naturellement, elle en est responsable, mais ça c'est normal, on est toujours responsable de ce qu'on fait. Et elle s'accomplit selon son destin à elle. Eh bien, pendant le Moyen-Âge et pendant la Renaissance, la pensée occidentalo-chrétienne, car nous avons été en chrétienté jusqu'à la fin du 19e, je pense qu'on peut dire des choses comme ça, à peu près, je pense qu'aujourd'hui nous ne sommes plus déjà depuis 2 siècles en chrétienté, pendant toute cette époque, donc jusqu'à la fin du 18e, pardon, plutôt 18e, la pensée occidentalo-chrétienne contribue à la sécularisation du pouvoir en dépit naturellement des forts excès qui ont eu lieu pendant toute cette période et qui évidemment ne sont pas à minimiser. Les politiques européennes ont connu des tentatives de théocratie, c'est le cas par exemple sous les Carolingiens ont été tentés par la théocratie. Les Carolingiens étaient des gens faibles, des rois faibles qui n'ont pas réussi à garder le pouvoir très longtemps comme vous savez, et peut-être faut-il s'en réjouir parce que sinon ils auraient probablement installé une belle théocratie européenne. On voit aussi la théocratie, la tentative de théocratie ou tentation si vous préférez, exprimée par les papes qui ont exigé avec plus ou moins de succès de mettre au pas les pouvoirs temporels, mis entre parenthèses. Je préfère toujours que les églises soient faibles, parce que quand elles sont fortes, c'est toujours des tentations terribles. Finalement, je me réjouis plutôt qu'aujourd'hui elles soient très faibles. Je pense que c'est meilleur pour une vision des choses religieuses. C'est meilleur d'être faible, parce que sinon, la tentation est toujours d'aller capter ce qui est temporel et d'aller capter les pouvoirs et les autorités qui ne sont pas dans son ordre. En tout cas, dans cette atmosphère où se développe cette tendance à l'identification des ordres, eh bien, on voit grandir à côté la distinction des ordres, les théories de la distinction des ordres, théorie qui est directement inspirée au départ par la pensée évangélique. Par exemple, chez Thomas d'Aquin, donc Moyen-Âge, le monde social, je dirais, il part tout seul. Il s'en va tout seul. Comme le chat de Kipling, il n'a plus besoin d'être drivé par le sacré, comme c'était le cas chez Augustin, 8 siècles avant. Le pouvoir temporel peut devenir, pour Thomas d'Aquin, autre chose que le mal et l'injustice. Chez Augustin, il était tellement, ce pouvoir temporel, tellement lesté de péché qu'on ne pouvait rien en faire. Chez Thomas, ce n'est pas du tout le cas. La politique est capable de déployer un ordre juste, sans penser au sacré, de permettre le bonheur des hommes. Pourquoi ? Parce que l'ordre temporel existe par lui-même, même si pour Thomas d'Aquin, bien sûr, il a été voulu par Dieu, mais après, il court sur son orbite, tout seul, un peu comme le monde que le Dieu a créé au départ, le Dieu christianisme, du judaïsme d'abord, a créé au départ. C'est-à-dire qu'il, vous vous souvenez sans doute, il crée le monde et puis il se met sur les bords et il dit « Allez maintenant les gars, débrouillez-vous tout seul. Moi, je me retire. » C'est ça, l'idée de la création du judaïsme, c'est ça. Vous avez un Dieu qui s'en va en laissant le monde inachevé. Eh bien, c'est cette même idée que l'on retrouve. S'il est bien vrai, et ça je crois que vous pouvez le retrouver partout, je suis prêt à en discuter bien sûr, s'il est bien vrai que dans un monde social, un cosmos social et civilisationnel, eh bien, le Dieu, le gouvernant et le père de famille ou la mère de famille, les deux, sont finalement instruits sur le même moule. Si le Dieu est autoritaire, le gouvernant est autoritaire et le Père est autoritaire, etc. Là, vous avez un Dieu du christianisme qui, qui laisse à l'homme un monde inachevé et qui ensuite s'en va sur les bords en disant bah, à toi de finir, t'as qu'à nommer les... tu nommes les animaux et puis tu finis, tu mets l'harmonie là où j'ai laissé encore un peu de chaos et tu te débrouilles mon fils. C'est ça. Et donc les politiques libres, ça va être ça. Pourquoi est-ce que la démocratie n'est apparue qu'en Occident? C'est bien parce que nous avons eu ça au départ. Nous n'avons plus cette religion maintenant. Ça n'empêche qu'elle a quand même structuré le continent. Alors on sait que la première théorie politique de la distinction des ordres, qui a annoncé la laïcité moderne, je parle de laïcité pour la France, mais sinon c'est sécularisation, cette première théorie a été élaborée au XIVe siècle par deux personnages, Guillaume d'Ockham et Marsile de Padoue. Nous sommes là donc en pleine terre européenne, puisque vous avez d'un côté un anglais, de l'autre un italien. On voit par exemple Marsile de Padoue, dans son livre « Le défenseur de la paix », qui était encore rédigé en latin à cette époque, on le voit reprocher à la papauté de s'immiscer illégitimement dans les affaires politiques de son temps. Et on voit Guillaume d'Ockham de la même façon qui dit « Mais reprécisons les rôles de l'Église et de l'État. Les rôles ne sont pas mélangés. » Et les deux auteurs proposent une œuvre de partage des rôles. Alors, au nom de quoi demandent-ils ça ? Au nom de l'Évangile. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont repuiser aux sources de leur religion constamment, comme d'ailleurs le font tous les auteurs, comme va le faire Bartolomé de las Casas à l'époque des Indiens, au XVIe siècle. Ils vont chercher les textes fondamentaux et ils disent, mais attendez, nous nous sommes séparés de ces textes, nous avons fait le contraire de ce qu'on nous disait, revenons aux textes et faisons ce que les textes nous disent. Et donc, Marcide de Padoue et Guillaume d'Ockham vont retourner à l'Évangile et dire, mais attendez, le Christ n'a jamais donné à Pierre un pouvoir temporel, il lui a donné un pouvoir spirituel, c'est complètement différent quand même. Pourquoi est-ce que le Christ n'a pas pris d'autorité sur les corps? Il a pris l'autorité sur les âmes, mais pas sur les corps, sur les âmes volontaires. Attention. Donc, vous avez, si vous voulez, à cette époque-là, très important, le XIVe siècle, pour la question de la sécularisation, vous avez un retour aux sources qui vient contester de façon assez forte, hein, même violente, qui vient contester les tentatives de théocratie de cette époque. Et ces deux auteurs disent, mais attendez, le sacré, c'est pas une forme de la vie sociale, c'est une relation personnelle de chacun avec Dieu. Nous sommes en plein dans la sécularisation moderne où la religion prend des formes personnelles. Et si on sacralise la politique, disent-ils, ça signifie que la relation avec Dieu cesse d'être libre et par conséquent, elle n'a plus d'intérêt. Nous avons le fond de la sécularisation. Donc vous voyez, la démarche de ces précurseurs est extrêmement importante parce qu'elle nous permet de comprendre ce qui s'est passé après. Et finalement, on s'aperçoit que clairement, c'est en tout cas comme ça que je vois les choses, ce qui a été fait à l'époque de la Révolution, c'est finalement une sorte de désacralisation de choses qui existaient déjà et en même temps une impatience, c'est-à-dire qu'il faut aller plus vite, il faut que ça aille plus vite. Mais ça n'a pas été une création totale. Cette sécularisation, elle existait déjà, et simplement elle a été rendue entièrement immanente, c'est-à-dire que la transcendance a disparu à l'époque de la Révolution, et elle a été, je dirais, accélérée. Alors, on voit qu'au fil des siècles, l'institution ecclésiale a suscité une sorte de dépravation de la pensée chrétienne. Et c'est précisément ce que les précurseurs dont je vous parle vont essayer de remettre en cause. En essayant de séparer le spirituel et le temporel, ces gens du XIVe siècle, c'est extrêmement ancien, vont proposer une forme de liberté dont ils disent que cette liberté se trouvait déjà dans les textes anciens. Et à ce moment-là, le lien religieux redevient, disent-ils, un signe d'autonomie. Alors, naturellement, les tentations de restaurer l'unité ou de restaurer la théocratie sont permanente. Ce matin, vous avez parlé du syllabus, c'est évident. C'est évident que tout ça a existé. Il a existé l'Inquisition, il a existé toutes sortes de choses de ce genre. Il y a constamment une volonté de pouvoir qui est d'ailleurs probablement le fait de toutes les institutions, qu'elles soient sacrées ou qu'elles soient profanes. Mais évidemment, c'est bien plus grave quand elles sont sacrées, parce qu'au nom du sacré, on peut faire n'importe quoi. Vous prenez au nom du Christ-Roi, on peut demander n'importe quoi. D'ailleurs, on le voit bien hein, dans les institutions. Donc c'est très très grave. On peut abuser des gens un peu naïfs en disant « mais c'est pour le Christ-Roi, donc tu peux bien faire ça ». Et le type un peu borné, paf, il y va. Alors, là, c'est très très grave, ça. Donc, mais c'est d'autant plus dangereux. Il faut absolument éviter que les gens qui portent une ampoule sacrée, pour parler de l'ampoule numéro mérovingienne, carolingienne, que ces gens-là aient trop de pouvoir. Alors, le droit et la morale sont séparés, et cette séparation va légitimer la valeur de l'intime. C'est dans l'intime que se joue l'essentiel, dans la liberté. Ces penseurs dont je parle, là, on croit, et je pense à juste titre, hein, que la socialisation de la religion au Moyen-Âge a littéralement, en partie, perverti le sens profond de cette religion. Ce qui ne signifie pas, à mon sens, que le Moyen-Âge était une époque complètement pervertie. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout, par exemple, la thèse de Michelet, qui dit, en parlant du Moyen-Âge, « le jour baisse énormément ». Non, moi je ne suis pas, je suis pas d'accord avec lui, mais enfin bon, là, chez Guillaume de Cam et Marcy de Padoue, il y a cette idée sur laquelle vraiment le Moyen-Âge a été une période de dépravation. Bon, maintenant, je ne suis pas historienne, mais certainement il y aurait plein de discussions à avoir à ce sujet. On voit apparaître au moment de la Renaissance une sorte de cri d'alarme, de rappel des sources, une rupture avec des éléments qui sont considérés comme dénaturés et qui, à mon avis, le sont en grande partie. Et après, va se développer quelque chose de beaucoup plus fort que ça, qui part de là, mais qui au fond est une sorte de radicalisation, et ça va aboutir à finalement un côté utilisation de la religion qu'on trouve chez Machiavel. Donc, vous voyez, Machiavel, c'est la fin du XVIe. Machiavel dit « la religion, c'est une loi d'utilité politique ». Les peuples ont besoin de la religion pour être tranquilles, donc pour rester tranquilles et pour ne pas se révolter contre les gouvernants. Autrement dit, la religion sert les gouvernants. C'est pour ça d'ailleurs que Machiavel sera si détesté par l'Église, parce que finalement il a instrumentalisé la religion de l'époque. Alors cette distinction, donc, on va, d'un point de vue historique, dites-moi quand je dois m'arrêter, hein, parce que d'un point de vue historique, j'ajoute juste ça, la distinction s'organise dans nos sociétés à partir du XIe siècle. Je vous rappelle quand même, je vous le rappelle au passage, peut-être une deuxième fois, que nulle part, en dehors de cette religion-là, on ne trouve cette distinction. Ou quand on la trouve, c'est simplement du mimétisme par rapport à nous. C'est quand même quelque chose de surprenant. Je ne dis pas que c'est toujours le mieux. Je ne suis pas en train de faire des ordres de valeur entre les civilisations. Je dis simplement, c'est quelque chose qui nous appartient à nous. C'est très particulier. D'un point de vue historique, à partir du XIe siècle, on voit historique et institutionnel, s'opérer cette distinction. Avec la réforme qu'on dit grégorienne, début du XIe, c'est une réforme qui vise à centraliser les structures ecclésiales, les structures de l'Église, et qui donc va dégager les instances spirituelles des pouvoirs, va dégager les instances spirituelles par rapport aux pouvoirs temporels, impériaux, royaux. Si vous voulez, l'Église, à cette époque, encore très, très éparse, cherche à se centraliser, et pour cela, elle va récupérer les petits pouvoirs ecclésiaux qui existent ici ou là. Elle les réunit pour chercher à se rendre plus puissante. C'est tout. Mais en même temps, en arrachant une espèce d'indépendance qui est complètement nouvelle, c'est ça la réforme grégorienne, il y a de très bons livres là-dessus, si ça vous intéresse, eh bien, l'Église contribue à séparer des ordres qui étaient autrefois liés. Par exemple, le sacre royal va être dévalorisé. Jusqu'à présent, il était religieux, le sacre royal. La royauté va donc être affaiblie. Mais en même temps, elle va être libérée, forcément. Et par les circonstances de l'histoire, je vais pas rentrer dans ce genre de choses, on se rend compte qu'à partir de la réforme grégorienne, les souverains germaniques vont se trouver de plus en plus affaiblis, les souverains français de plus en plus renforcés. ce qui va donner, à partir de là, le fédéralisme en Allemagne, avec la théorisation d'Althusius au XVIe, et le centralisme français en France, qui va donner la théorisation de Bodin, XVIe siècle. Donc, à la même époque, les deux théorisations et les deux pays qui partent, chacun dans un sens, avec comme, quand on part comme ça, d'un point, on se sépare après, et aujourd'hui, vous avez Merkel et Hollande qui sont vraiment sur deux planètes différentes. Pourquoi ? Parce que l'un des pays est fédéraliste et l'autre centralisé. Mais ça, ça provient de très très loin, mais entre autres, pas uniquement, mais entre autres de la réforme grégorienne. Par exemple, au XIIe siècle, vous voyez que se distingue clairement le sacre épiscopal et le sacre royal, chose qui n'était pas faite auparavant. Le pouvoir royal va en être laïcisé. Et à ce moment-là, le pouvoir impérial, qui se cherche des justifications tout le temps, va chercher sa légitimité dans la Rome ancienne. On voit par exemple apparaître au XIIIe siècle la renaissance du droit romain et le retour de l'aristotélisme. Bon, on voit une séparation du droit et de la philosophie avec la théologie. Séparation qui, jusqu'à présent, n'était pas si claire. Le conflit entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII, la charnière du XIIIe et du XIVe, qui aboutit à l'indépendance du pouvoir temporel et en France à la naissance du gallicanisme, tout à fait français. Cette sécularisation du pouvoir, qui a libéré le pouvoir de la tutelle spirituelle, a en même temps libéré les gouvernés, forcément. C'est-à-dire que la sécularisation va aboutir à une forme de fragilisation, mais en même temps de libéralisation. Les souverains germaniques, jusqu'à la fin du XIXe siècle, ne se sont pas remis de cette fragilisation. Les Français ont compensé par la politique, et les Allemands sont partis vers la dispersion, ce qui a fait qu'au début du XIXe, on voit le grand Hegel, l'allemand Hegel, écrire... nous avons 1800 centres de souveraineté pendant qu'en France il n'y en a qu'un. Face à ces cyclopes, nous sommes devenus des pygmées. Donc, et c'est ainsi que vous voyez arriver Bismarck, hein, et puis vous voyez un peu plus tard le nazisme. Tout ça, ce sont des résultats de cette complexe énorme de la décrépitude, de l'anarchie allemande, qui est d'ailleurs pas uniquement une anarchie, c'est pas le foutoir, hein, c'est une décentralisation extrême et une recherche de l'État unique. Tout ça, ça vient quand même de ce qui s'est passé au XIIe, XIIIe siècle. Le concept de légitimité ne peut apparaître que dans le concept de désacralisation. Puisque le concept de légitimité, quand il est politique, c'est déjà quelque chose qui s'apparente au sacré, même si ça reste temporel. Et si le roi est Dieu, il n'y a pas de catégorie du légitime sur le plan temporel. Seul Dieu est légitime. Vous voyez, c'est tout à fait... Ça paraît, je pense, tout à fait clair. Si le roi est Dieu, vicaire de Dieu, élu de Dieu, bon ben voilà, c'est Dieu qui est légitime. Il n'y a pas d'homme qui puisse être légitime. Il n'y a plus de discussion, il n'y a pas de liberté possible, il n'y a pas, évidemment, de démocratie possible. Alors, évidemment, on pourrait discuter longtemps, mais je vais laisser comme du temps pour les questions. Je sais pas. Tout cela se développe évidemment au XVe ou XVIe siècle, et surtout au XVIe, avec ceux qu'on appelle les monarchomaques, qui vont endosser simplement le vêtement de l'ancien tyrannicide grec. Vous voyez, tyrannicide, monarchomaque, c'est la même chose. Au fond, quand on regarde les choses, on s'aperçoit que l'Europe, depuis le 8e siècle jusqu'à la Révolution, a connu des théocraties, mais qui étaient toujours temporaires, fragiles, qui étaient des tentations plus qu'autre chose, plus que même que des tentatives, et qui n'ont jamais pu durer. Ce qui signifie bien qu'il y avait constamment une lutte contre cela, et qu'il y avait une théorie contre la théocratie qui était tout à fait claire. La question étant toujours en Europe, comment limiter convenablement le pouvoir pour qu'il n'atteinte pas aux libertés ? Et ceci même à l'intérieur de la religion, quoi qu'on puisse en dire. Notre auteur français, Joseph Proudhon, disait qu'a fait l'Europe pendant toute son histoire? Elle n'a fait qu'une seule chose, essayer de gouverner ses gouvernements. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, nous en sommes encore là, nous sommes encore en train d'essayer de gouverner notre gouvernement. On n'y arrive pas naturellement, hein. Mais c'est quand même quelque chose de très très européen. Alors, je termine simplement en disant que là, je vous ai parlé de la sécularisation et non pas de la laïcité. La sécularisation est un produit culturel européen, occidental européen. La laïcité est un produit français, purement français. Alors on dit qu'il y a laïcité en Turquie. Bon, d'accord. Allez voir un peu ce qui se passe en Turquie. Allez voir un peu si c'est si laïque que ça. Je pense que c'est même pas de la sécularisation. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais bon. Il me semble, et là je vais peut-être vous faire bondir, mais on est là pour discuter, on n'est pas là pour se disputer. Il me semble que la laïcité, alors vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit c'est surtout pas une, c'est pas contre la religion. J'entends bien, quand la laïcité est bien comprise, elle n'est pas contre la religion, elle est pour la liberté religieuse. Ce que je dis, c'est pas ça, c'est que la laïcité est une nouvelle religion. Est une nouvelle religion. La sécularisation, non. La sécularisation, c'est la séparation des ordres, point. La laïcité française, hein, c'est une nouvelle religion. Je vous donne un seul exemple, mais bon, après on peut parler ensemble. Vous avez parlé tout à l'heure, avec, à juste titre, de la censure de la science. Il n'y a rien de plus désagréable, le mot est faible, que l'affaire Galilée. Bon. C'est tout à fait insupportable qu'une église, quelle qu'elle soit, vienne dire on n'a pas le droit de penser ça en science. Mais lorsque nous voyons ici en France les lois mémorielles, je suis désolé, c'est une instrumentalisation d'une science au service d'une idéologie, de l'idéologie laïque. C'est-à-dire que la laïcité est devenue une idéologie qui met à son service la science historique, je ne prends que cet exemple, et c'est ça les lois mémorielles. C'est-à-dire, vous êtes obligé de dire qu'il y a eu un génocide à tel endroit. Ce qui est totalement insupportable, parce que ça signifie que les chercheurs n'ont plus le droit de chercher. Et d'où l'affaire Petré-Grenouillot, d'où l'affaire Guggenheim, d'où etc. Bon, on pourrait évidemment parler pendant longtemps. Si vous voulez, toute maîtrise de la science par une idéologie aboutit à une sorte de catéchisme. Et là, nous avons une forme de catéchisme laïque. La laïcité, au fond, en France, est devenue une forme de religion avec son catéchisme et en même temps sa liturgie. Pour moi, c'est ça. Alors après, je vous laisse me critiquer à votre aise. Merci. Merci.